La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Angers et nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Au programme de la Covidienne, Sophie Génaud est avec nous pour parler de la 8e édition du festival Spectacurieux, puis Clémence reviendra comme tous les jeudis avec sa revue de presse féministe qu'on attend toujours avec impatience. Vous avez peut-être déjà entendu parler du festival Spectacurieux, puisque cette année sera la 8e édition. Festival de la création universitaire, celui-ci met en lumière des créations originales et surtout des créations étudiantes. Sophie Génaud, coordinatrice du festival, est avec nous ce soir. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Le festival a été créé en 2013. En quelques mots, Spectacurieux, c'est quoi ?
Ah, Spectacurieux, eh bien, c'est du spectacle et c'est curieux. Spectacurieux, en fait, ça fait 2 ans qu'on l'a intitulé comme ça. Au départ, ça s'appelait juste le Festival de la création universitaire d'Angers. C'était un peu long. Donc, on a créé Spectacurieux en mots composés. Grosso modo, c'est un festival qui a pour but de promouvoir l'art et la création étudiante, mais aussi de personnel d'université. C'est pour ça que c'est un festival de création universitaire. C'est pas que les étudiants, c'est aussi les personnels. Voilà. Et donc, le but, c'est de promouvoir aussi bien du théâtre, de la danse, de la musique, les arts en général. Voilà.
Et étant donné que c'est la 8e édition, comment s'est créé le festival au tout début, avant la première édition ? Est-ce que ça a évolué depuis ? Quelle était l'envie de départ ?
Alors, l'envie de départ, en fait, avant, il existait déjà plusieurs festivals. Il y a eu, voilà, on va pas remonter, on va faire parfaitement tout l'historique de tous les festivals universitaires et étudiants, etc. Mais en 2013, il y a eu une nouvelle équipe, un nouveau président au niveau de l'Université d'Angers, qui a souhaité, enfin, son vice-président à l'époque, vice-président culture, Jean-René Maurice, qui était vice-président à ce moment-là, a souhaité remettre en place un festival fort. Avec vraiment la création étudiante au cœur du festival. Et donc est née cette envie de monter un festival sur plusieurs jours, donc une quinzaine de jours au départ, gratuit, ouvert à tous les publics, où on présentait vraiment la création étudiante. Et la création étudiante, pas que angevine, mais aussi la création étudiante de partout en France et à l'international. Donc c'était une vraie volonté dès le départ de créer un festival voilà, pour mettre en valeur la création étudiante et universitaire de partout et au sens large.
L'année dernière, le festival a été annulé avec le confinement, mais cette année, il aura bien lieu en ligne pour la majorité des projets. Comment ça va s'organiser en ligne ?
Ouais, alors ça, c'est complètement nouveau. Donc le festival, déjà en novembre dernier, on s'est dit comment on va faire. Déjà que l'édition, donc la 8e édition de l'année dernière a été annulée, on s'est dit mais on va pas en rester là, on va pas ne rien faire, on va pas baisser les bras, on va pas faire 2 années de suite sans rien. Donc très rapidement, on s'est dit bon bah, on va faire du en ligne. Alors c'est compliqué de faire du spectacle vivant virtuel. Voilà, on s'est dit comment on va faire ? Est-ce qu'on présente que du cinéma et pas de théâtre ? Comment on fait ? Est-ce qu'on présente que des clips de musique et pas de concerts ? Et en fait, on s'est rendu compte que les étudiants continuaient de créer à leur manière, chez eux, dans leur chambre, en visio. Enfin, il y a des choses incroyables qui ont été créées depuis un an. Et donc voilà, on a fait des appels à projets. On a reçu beaucoup de matière, de la belle matière d'ailleurs, des beaux projets. Et donc là, on a une 50aine de projets à proposer à partir de mardi.
Et ce sera organisé comme un vrai festival avec des horaires précises
Oui. Alors, il y aura 2 choses. En fait, il y a des choses qui seront en ligne tout le temps. Par exemple, on aura une galerie photo, une galerie virtuelle avec de la peinture, ce genre de choses. On aura aussi de la musique en ligne. On va avoir des nouvelles aussi à écouter. On va avoir des pièces radiophoniques qui ont été créées exprès. Donc, des choses à écouter. Et après, on aura le festival, comme si voilà, on avait rendez-vous à 18h dans une salle de spectacle, ou à 20h, ou à 20h30. Et là, ce sera mis en ligne au fur et à mesure.
Et tout ça gratuitement ?
Et tout est gratuit, tout est en ligne. Et c'est ouvert du coup à tous les publics. Et alors, à tous les publics au-delà d'Angers, puisque comme c'est en ligne, c'est ouvert à tout le monde, partout.
Oui, pour le coup, ça permet de toucher tout le monde. Et il y aura également des expositions en extérieur ?
Alors oui, en fait, il y a donc beaucoup de choses en ligne, mais on a la chance d'avoir quand même une expo qui a pu se monter en extérieur. Donc c'est la seule chose qu'on a pu garder en présentiel finalement. Ça s'appelle L'ombre d'un doute. Ce sont des étudiants de l'école ESAD de Talm, donc l'école des Beaux-Arts d'Angers, Tour Angers-Le Mans, qui ont créé ces photos. En fait, ils se sont regroupés dans un atelier. Ils ont créé ces photos sur, ça s'appelle L'ombre d'un doute. Le mieux, c'est d'aller voir. Donc, on peut les retrouver dans le jardin François Mitterrand, en face de l'école, enfin de la fac de droit, en fait, sur le campus Saint-Serge. Donc, l'expo, elle est en place jusqu'au 2 mai. Ça dépasse un petit peu le festival. Mais voilà, on peut profiter de cette expo en vrai.
Et il me semble qu'il y a aussi un petit partenariat avec le Shabada et que quelques chanceux, chanceuses auront le droit carrément à un mini-concert.
Ouais, carrément. Alors, vraiment mini-concert parce qu'on n'aura que donc quelques musiciens, vraiment pas beaucoup. Donc, en lien, donc c'est une programmation qui est faite en lien avec le Crous et avec le Shabada et donc la direction de la culture de l'Université d'Angers. Et en fait, on va faire ça sur les terrasses de la fac de droit. Donc voilà, donc ce sont des assez grandes terrasses aérées et on aura le droit d'avoir 6 personnes publiques à chaque fois. Donc c'est sur inscription, il n'y a pas beaucoup de place, donc on n'en parle pas trop. Mais voilà, on va quand même pouvoir faire des mini-concerts sur les terrasses de la fac.
Donc là, les personnes qui nous écoutent sont en train de courir.
Voilà, de courir.
Il reste déjà plus que 2 places.
Ouais, c'est ça, peut-être, ouais.
Pour cette édition, 50 projets, 200 participants et plus de 10 heures de vidéos sont attendus. On a donc du théâtre, de la danse, du cinéma, de la musique et j'en passe beaucoup. Par rapport aux éditions précédentes, est-ce que vous avez remarqué une baisse des propositions ou au contraire davantage d'envie et de projets?
Ouais, alors ça, c'est intéressant. En fait, la prog n'est pas du tout la même que les années précédentes. Généralement, on programme beaucoup de danse ou de théâtre, aussi bien en extérieur qu'en salle, etc. Là, c'était un peu moins facile de programmer, en tout cas du théâtre filmé ou de qualité, parce que souvent le théâtre, ça peut être très bien joué, très bien mis en scène, mais la vidéo, parfois, c'est pas très très bon. Donc, on a vraiment fait une sélection hein, parmi les projets. Par contre, souvent, on a un peu de mal à avoir de la vidéo, à avoir des courts-métrages, à avoir du stop-motion, à avoir vraiment des choses filmées, de la vidéo, vraiment des films. Et là, par contre, on a eu de la matière. Là, ouais. C'est chouette.
Ça, c'est la différence un peu avec les années, les années précédentes. Et est-ce que vous sentez un besoin plus fort de la part des étudiants, étudiantes ou du personnel universitaire? Je suppose qu'il y a eu des retours déjà des participants, participantes, en tout cas peut-être des remerciements. Est-ce qu'il y a un besoin plus fort de créer?
Alors, besoin plus fort, je ne sais pas, mais en tout cas, la création est plus forte. Je ne sais pas comment dire ça, mais par exemple, on a mis en place un atelier slam poésie. Les étudiants qui ont fait cet atelier, au début, ne se connaissaient pas du tout. Ils n'avaient jamais écrit de leur vie, ils n'avaient jamais fait de poésie, ils n'avaient jamais dit de texte. D'ailleurs, ils ne diront jamais de texte devant un public, mais ils l'ont dit devant une caméra. Et ils en sont ressortis complètement chamboulés. Enfin, d'ailleurs, ça se verra, vous pourrez regarder, je parle au public, là, à tout le monde, mais vous pourrez regarder Slam Poésie, il y a 3 épisodes avec des interviews, et ça se sent qu'ils sont transformés, qu'ils ont mis quelque chose dans ces textes, qu'ils ont découvert... par le biais de cette création, une manière de s'exprimer, de dire des choses. Et on s'en rend compte là en ce moment, les étudiants, surtout en ce moment, dans ce contexte, ont vraiment besoin de rencontrer, de sortir, de s'épanouir, de s'exprimer, de jouer, de crier, de danser, de taper sur des percus, de faire de la musique, etc. Et ils le vivent doublement, pleinement en fait. Et voilà.
Et justement, avec cette version dématérialisée, est-ce que justement vous avez pu découvrir des projets qui avaient peut-être moins l'habitude d'être proposés dans un contexte classique? Tu parlais il y a un instant d'une pièce radiophonique.
Oui. Alors en fait, il y a des choses qui ont été créées, on va dire qui ont été pensées pour faire des choses en ligne, justement. Donc par exemple, dans un festival habituel, on ne va pas proposer généralement, pas tellement, des choses à écouter, par exemple. Là, comme c'est en ligne, c'est sur un site, on peut se poser tranquillement chez soi ou entre midi et deux dans son bureau ou alors entre deux visios de télétravail. Ou voilà. On peut écouter un extrait d'une... Donc là, je parlais d'une pièce radiophonique. Il y a 9 épisodes. Enfin, non, 7 épisodes, pardon. 7 épisodes. Et donc, tous les jours, on a un nouvel épisode et à la fin, on a la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Et on a des choses comme ça qui ont été créées exprès. On a aussi nos étudiants du théâtre de rue et vidéo, donc ils ne peuvent pas faire du tout de théâtre de rue en ce moment, qui ont créé des choses qui ont été filmées. Donc ils ont créé un grand concours qui s'appelle « La fac a un incroyable talent ». Alors c'est complètement... c'est drôle, quoi. C'est un peu pour se moquer aussi des téléréalités ou des télécrochets. Et donc en fait... tout simplement, on verra dans un épisode 1 un magicien ou ce genre de choses. Et le public est amené à voter en ligne. et le dernier soir on saura qui est l'incroyable talent de l'université.
Et il y a un deuxième concours aussi, un concours photo où on peut participer.
Exactement, donc second concours, alors là c'est plus sérieux, c'est un vrai concours, où en fait donc des étudiants de l'UCO, de l'Université d'Angers et de ESAD Talm ont participé et ont envoyé leurs photos sur le thème 2050. Donc il y a des choses assez, assez intéressantes dans les photos. Donc là on peut aller voir le concours photo en ligne sur le site de Spectacle Curieux. Et vous pouvez voter, tout le public peut voter pour la photo qui lui plaît le plus.
Et les résultats seront communiqués à la fin du festival.
Voilà, à la fin du festival, et puis bah, les lots seront remis aux participants quand on pourra se revoir.
Et il me semble qu'on peut aussi jouer, c'est très interactif, on peut aussi jouer à un quiz culture pour gagner des places de théâtre-cinéma quand ça va réouvrir, évidemment.
Exactement. En fait, l'idée aussi, c'est que ça fait quelque temps qu'on a moins de liens avec nos partenaires culturels, les partenaires notamment de la carte culture, mais pas que. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait garder du lien avec le Quai, avec la Collégiale Saint-Martin, enfin je ne vais pas tous les citer, mais même nos partenaires qui sont sur Saumur ou sur Cholet. Donc on leur a proposé de nous donner des questions sur leur structure. Alors, il y a des questions rigolotes, voilà. Et donc on a créé ce quiz culture, et donc vous pouvez gagner... Si vous participez, si vous gagnez, vous pourrez gagner des affiches de spectacle, des places, des décapsuleurs, des goodies. Voilà, il y a plein de choses à gagner, ça va être rigolo. Et on propose aussi une autre proposition interactive. Alors en plus, la semaine prochaine, au moment du festival, ça va être les vacances scolaires finalement. Donc vous avez, même tout le monde peut participer, même les enfants avec les parents. On a mis en place en ligne... Un masque de chat, parce qu'en fait c'est l'emblème de notre festival cette année, enfin qui était l'emblème de l'année dernière, mais voilà. Et donc l'idée c'est de se masquer, enfin d'imprimer son masque de chat, le customiser, et de porter ce masque et de se prendre en photo avec, et de nous envoyer la photo.
Et voilà. Ça, c'est aussi un concours
Non, c'est juste pour rigoler.
Et au niveau des écoles et universités qui participent, à Angers, il y a l'UA, l'UCO, l'ESAD et Talm.
Ouais, ESAD,
mais
Talm.
Mais il y a aussi 11 écoles et universités nationales, plus une école internationale, l'École nationale de cirque de Québec.
Ouais.
Ce sont les écoles qui viennent d'elles-mêmes vers vous ou vous qui venez vers elles?
Alors non, là ce sont les... Quand on a lancé l'appel à projet, en fait on envoie à tous les services culture de France, aux associations qu'on a déjà identifiées un peu sur le territoire, etc., par le biais du CROUS aussi, des CROUS ou du CNUS, enfin voilà. On envoie les appels à projet, donc on a eu des choses qui nous arrivent de partout, Toulouse, Dijon, Marseille, voilà, et même le Québec. Alors ça, on était super contentes parce que ça, voilà, ça change. Et puis leur école, c'est une école nationale de cirque, c'est incroyable ce qu'ils font, c'est super. Donc voilà, donc oui, des personnes qui viennent de... un peu partout en France. Et puis on a nos étudiants, en fait, Angers a une antenne avec du théâtre à Agen, et donc ce sont les étudiants d'Agen qui proposent les pièces radiophoniques spécialement pour le festival.
Et je suppose que toi et l'équipe, vous avez pu voir les projets de cette nouvelle édition. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un thème qui se dégage davantage dans ce contexte mondial, ou bien on est dans quelque chose de toujours aussi éclectique, voire plus?
C'est un peu particulier parce que il y a quand même beaucoup de projets qui ont été créés pendant la première période de confinement et depuis. Et on va avoir beaucoup de choses, finalement, je pense, engagées, liberté, des choses comme ça qui reviennent. Défendre des droits, c'est des choses vraiment, les choses fondamentales, en fait. Mmh. Et du coup, les projets, pour beaucoup, sont forts parce qu'on est vraiment sur... soit des choses complètement oniriques, complètement farfelues, besoin de sortir de ce monde qui est complètement fou, avec des choses très poétiques, et ou alors des choses au contraire très engagées. On a une expo photo, par exemple, sur les violences faites aux femmes. On va être vraiment sur des choses très engagées, des grands thèmes, ouais, comme la liberté, besoin de s'exprimer, besoin de savoir pourquoi on est là, d'avoir les pieds ancrés sur la terre.
Ce qui n'est pas si étonnant, parce qu'on voit bien que cette génération est encore plus que les autres là, et engagée et a envie de créer des choses. Donc c'est chouette de voir que ça se retransmet dans un festival.
Et puis il y a un besoin de se retrouver même à distance. Voilà.
On peut peut-être rappeler comment on fait pour assister à tout ça?
Ouais, bah donc du coup c'est en ligne. Tout est en ligne sur le site dédié au festival. Donc vous cherchez Spectacle Curieux, voilà, tout simplement. Et puis il y a vous tombez sur le site Spectacurieux avec, une fille qui est avec son masque chat, voilà, vous ne pouvez pas le rater. Et ça commence donc le mardi 13 avril jusqu'au lundi 19 avril et non-stop de 13h à peu près 22h tous les jours, vous avez des choses à regarder en ligne. Le dimanche, c'est un petit peu repos. On n'a pas programmé trop de choses le dimanche pour justement avoir le temps de regarder tout ce qu'on n'a pas pu regarder. Voilà. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Je ne l'ai pas dit, mais la soirée d'ouverture et la soirée de clôture, donc le 13 et le 19 avril, ce sont des soirées en YouTube Live. Donc du coup, là, on vous prépare vraiment des soirées en live, rien que pour vous, public. Là, on est en train d'écrire ces soirées. Et donc, on va pouvoir les tourner en direct avec des invités qui nous viennent un peu de partout. Mais grâce à Teams, Zoom, etc. Enfin, voilà, on va s'amuser un peu.
Merci beaucoup. Sophie, le festival a donc lieu, je le répète, du 13 au 19 avril. Et toutes les infos sont sur festival.univ-angers.fr. Quant à nous, avant de retrouver Clémence et sa revue de presse féministe, nous allons faire une petite pause musicale et écouter Chehu Azoul. À tout de suite sur Radio Campus Angers.
Tão forte, tão bela que me deixa sempre assim, feliz a dançar.
Vous êtes toujours dans la Covidienne sur Radio Campus Angers et on vient d'écouter Cheu Azul de Georges Soma Junior. Et maintenant, comme tous les jeudis, Clémence est de retour avec sa revue de presse. Au programme ce soir, non mixité, rallongement de l'IVG et histoire LGBTI+. Salut Clémence, comment tu vas ?
Ça va bien Sarah, dis-moi, est-ce que tu connais le manifeste des 343 ?
Alors je connais le manifeste des 343, mais c'est vrai qu'une piqûre de rappel est toujours nécessaire.
Bon, je t'en cite un bout. Je ferai un enfant si j'en ai envie, nulle pression morale, nulle institution, nul impératif économique ne peut m'y contraindre. Cela est mon pouvoir politique. 50 ans plus tard, rien ne doit changer. Le journal du dimanche a publié un nouveau manifeste des 343 le 3 avril dernier. Le premier manifeste, il date d'avril 71. Il est paru dans le Nouvel Obs et réclamait l'avortement libre et gratuit. En 2021, 343 personnes pouvant enfanter demandent l'allongement du délai d'IVG. Les signataires reviennent sur ce droit si fragile et surtout sur l'articulation entre droit à l'avortement, accès à la contraception et éducation sexuelle. En France, le délai autorisé est de 12 semaines. Ailleurs en Europe, c'est par exemple 14 semaines en Espagne et en Allemagne, c'est même 18 en Suède. Tout le monde n'a pas les moyens financiers de voyager pour un avortement hors délai français. Et ce n'est pas que le rallongement du délai qui est demandé, c'est aussi celui du respect des choix des personnes et la garantie de disposer librement de leur corps. Une pique destinée aux médecins se cachant derrière la clause de conscience et aux parfois mauvais traitements du personnel encadrant. Toujours de l'histoire avec Tétu, le 4 avril 2021, c'était les 40 ans de la marche triomphale des homosexuels et des lesbiennes. Le magazine en ligne vous fait revivre ce moment où 10 000 personnes ont défilé dans les rues de Paris pour demander l'abrogation du délit d'homosexualité en France. Un voyage slash revue de presse vers le passé. Le co-directeur de l'Observatoire LGBT, Denis Quinqueton, a balayé le traitement et l'annonce de cette marche par les journaux de l'époque. Le Figaro n'attend que le lundi d'après avant de lâcher 12 lignes sur l'événement, par exemple. Qu'en est-il du Monde ou de, du Matin de Paris ? Là, c'est plus détaillé. Il est mentionné notamment la récompense décernée au cours du gala qui a clôturé la marche, la préfecture de Paris, plus précisément son groupe de contrôle des homosexuels, s'est vu remettre le prix de l'homophobie 1981. Bonne ambiance. Oui, l'abrogation du délit d'homosexualité en France ne date que de l'année suivante, 1982. Et c'est 8 années plus tard que l'OMS retire l'homosexualité de sa liste des afflictions mentales, le 17 mai 1990. IVG, lesbianisme et homosexualité, des droits et des libertés si récentes, ça a de quoi donner le vertige. 2021 maintenant. Réunion en non-mixité, UNEF, Audrey Pulvar, Jean-Michel Blanquer, et vous avez du mal à suivre, tout va bien. Je vais vous donner 3 articles pour mieux comprendre les tenants et aboutissants des réunions en non-mixité. D'abord le tableau. En mars dernier, Blanquer, ministre de l'Éducation, s'insurge de l'existence de réunions en non-mixité au sein du syndicat étudiant de l'UNEF. Et là, c'est parti pour une série de débats houleux. La présidente du syndicat, Mélanie Luce, précise que ces rassemblements n'ont pas de vocation décisionnelle. Et c'est trop tard. Il y a des réunions qui sont interdites aux blancs, il y a des réunions qui sont interdites aux hommes, et ça passe pas. Une dizaine de jours plus tard, Audrey Pulvar est invitée à s'exprimer à ce sujet. Et qu'est-ce qui est retenu de son intervention ? Qu'elle n'est pas choquée de la nécessité de ces réunions et qu'on peut demander aux personnes blanches de se taire si elles y sont présentes. Bon, on arrête tout. Déjà, ce que l'on sait, personne ne s'est fait jeter d'une réunion en non-mixité parce qu'on considère comme pas concerné. On va reprendre avec quelques définitions. Il y a les décodeurs du Monde qui vous ont fait un lexique. Ça s'intitule « Racisé, privilège blanc, intersectionnalité », le lexique pour comprendre le débat autour des réunions non mixtes. À chaque fois, vous avez les exemples dans l'actualité, la définition, ce qu'en disent les détracteurs et comment le défendre ses partisans. On va prendre au hasard la non-mixité. Les décodeurs la définissent comme les groupes qui réservent la parole à des personnes minorisées, c'est-à-dire personnes LGBTQIA+, personnes racisées, les femmes. Et les détracteurs y voient du racisme à l'envers, comme si le racisme pouvait être à l'endroit et tenir la route. Et ils affirment aussi que ces combats se mènent collectivement. Les partisans, quant à eux, rappellent la ponctualité de ces événements, tout en pointant l'entre-soi déjà existant dans les institutions et certaines professions. Je vous laisse aller checker les autres définitions. Le 4 avril, je reçois une notif de France Info. l'article à lire pour comprendre le débat autour des réunions non mixtes. La journaliste Mathilde Goupil revient sur cette polémique. Est-ce que c'est raciste? Est-ce que ça encourage un repli sur soi des communautés? Est-ce que cela signifie que seules les personnes concernées sont légitimes pour lutter contre ces inégalités? L'article pose toutes les questions. La réponse, c'est trois fois non, pour des raisons de fréquence et de rapport de force autour de la non-mixité. Aude Loriot, grande reportrice discrimination et égalité des genres, vous a quant à elle concocté un historique de ces réunions en non-mixité sur le site 20 minutes. Déjà dans les années 70, le mouvement de libération des femmes en France demandait aux hommes de garder les enfants pendant les actions et les événements. Et la non-mixité entre elles, ça leur permettait en fait de créer des espaces où la parole pouvait se libérer avec bienveillance. L'article se conclut en affirmant que la pratique de ces réunions n'est pas une fin en soi, seulement un moment étape pour que les personnes concernées puissent réfléchir sur les oppressions qu'elles estiment vivre et penser à des solutions. Voilà, c'était un corpus non exhaustif pour essayer de replacer le débat en contexte. Là où le bât blesse parfois, c'est que la non-mixité raciale continuera d'interpeller tant que l'universalisme français ne sera pas remis en question. Cet idéal, c'est quoi? C'est celui où la France est unifiée, constituée de citoyens égaux en droit et en devoir, pas des citoyens différenciés ou mis dans des cases. Problème, ne pas mettre dans des cases sur le papier, bah ça fonctionne pas en réalité. Les inégalités restent criantes dans notre pays selon les détracteurs de l'universalisme. Donc avant de crier au séparatisme, communautarisme et autres mots en isme, il serait temps de se pencher sur les raisons qui rendent ces rassemblements en mixité choisie nécessaires. Pipchit les rageux qui voulaient venir à la réu en non-mixité, on sait très bien que s'il n'y avait pas eu l'étiquette non-mixité, vous ne seriez pas venu. Et c'est fou de devenir antiraciste et antisexiste parce qu'on ne vous donne pas assez d'attention. Sur ce, bonne fin de semaine et giga courage aux mamans qui n'ont pas le choix de gérer les enfants restés à la maison.
Merci beaucoup Clémence pour cette chronique et merci encore à Sophie Génaud. C'est déjà la fin de cette Covidienne, on se retrouve lundi et d'ici là, bon week-end sur les ondes de Radio Campus Angers.